de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. LPP RRI a souligné son engagement en tant que radio électorale indépendante. Quatre personnes sont mortes à cause du tremblement de terre à Jayapura. L'Indonésie et la Malaisie conviennent de lutter contre la discrimination à l'égard de la femme. L'Indonésie et l'Australie ont discuté des questions de défense et de sécurité régionale. Les agences de résidence américaines mettront fin à la catastrophe de la COVID-19 le 11 mai. Le ministre indonésien des Affaires étrangères offre à l'Australie un investissement dans la construction d'IKN. Voici le journal complet. L'Agence de radiodiffusion publique de la République d'Indonésie, LPPRRI, a souligné son engagement en tant que radio électorale indépendante, en particulier dans la diffusion d'informations relatives à l'élection simultanée de 2024. Siska Dekare, le président du conseil de surveillance de LPPRRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, après avoir assisté à la passation de pouvoir du chef de LPPRRI Purwokerto, à Purwokerto dans le centre de Java jeudi. Anwar Mujahid expliquait que l'éducation concernant les élections générales était la cible de l'implication de RRI dans la réussite de l'élection, par exemple l'alphabétisation de nouveaux électeurs. De plus, dans la diffusion des informations relatives aux élections, il doit y avoir équité afin que chaque élément, composante ou participant aux élections générales puisse être socialisé au mieux. Quatre habitants de Jayapura sont morts à la suite du tremblement de terre. Les quatre sont morts après avoir été frappés par un immeuble de café dans la région de Rukodok de Jayapura. Il a dit que la victime morte avait été évacuée à l'hôpital. Pendant ce temps, les données sur la victime blessée sont toujours en cours de collecte. Asif Khalid a expliqué que la force du tremblement de terre était presque ressentie dans toute la ville de Jayapura. Des dommages ont été causés à des maisons, des installations publiques et un certain nombre de bureaux gouvernementaux. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, a noté que l'épicentre se trouvait à la surface de la Terre, à environ 9 km au sud-ouest de Jayapura. L'hypocentre, ou la profondeur du tremblement de terre, est de 10 km. Le tremblement de terre s'est produit à 13h28 heure de l'ouest de l'Indonésie, sans risque de tsunami. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de continuer à protéger le secteur de l'huile de palme, y compris en surmontant la discrimination de l'encontre de ce produit. L'effort pour surmonter la discrimination contre le palmier à huile répond en même temps aux politiques unilatérales qui affectent le palmier à huile. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur de l'économie, Erlangga Hartarto, lors d'une conférence de presse après une rencontre avec le ministre malais de l'Agriculture et des Produits de Base, Dato Sri Fadla Yusuf, à Jakarta jeudi. Cette réunion a convenu de tirer parti de l'implication des principaux paysans portateurs d'huile de palme à travers le dialogue politique. La stratégie visant à une reconnaissance plus large du système indonésien de l'huile de palme durable, ISPO, et du système malais de l'huile de palme durable, MSPO, sur le marché mondial. La stratégie comprend également la promotion d'une telle reconnaissance en relation avec la table ronde sur l'huile de palme durable, RSPO. L'Indonésie et l'Australie ont discuté des questions de défense et de sécurité dans la région lors de la réunion 2+2 des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense des deux pays. Cela a été transmis par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'un point de presse virtuel depuis Canberra jeudi. La réunion qui s'est tenue mercredi 8 février a réuni Retno Marsudi, le ministre indonésien de la Défense Prabowo, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et le ministre australien de la Défense Richard Marles. Retno Marsudi a déclaré que la réunion était très importante pour discuter de la dynamique et de la concurrence entre les grandes puissances de la région ainsi que de la sécurité maritime tant dans l'ASEAN que dans le Pacifique. À cette occasion, l'Indonésie a également continué d'inviter l'Australie afin qu'ensemble, ils puissent devenir une force de soutien dans le maintien d'une région Indo-Pacifique qui est pacifique, stable et prospère. L'Agence fédérale américaine de gestion des catastrophes, FEMA, a déclaré jeudi qu'elle mettrait fin à sa période d'urgence en cas de catastrophe de COVID-19 le 11 mai. La date a coïncidé avec la fin de deux statuts de catastrophe liés à la pandémie de COVID-19 par le gouvernement central. Actuellement, le statut de catastrophe COVID-19 est toujours en vigueur dans 50 États, 5 territoires et 3 zones tribales indiennes. C'est ce qu'a affirmé la responsable de la réponse et de la récupération de la FEMA, Anne Bing, citée par Reuters. La FEMA fournit aide de plus de 104 milliards de dollars américains aux gouvernements étatiques, locaux, les zones tribales et régionaux. L'aide est également fournie aux organisations à but non lucratif et aux survivants, notamment une aide pour les frais funéraires, la perte d'emploi, des conseils en cas de crise. La FEMA a également mis en place des cliniques de vaccination dans les colonies. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, invite l'Australie à investir dans le développement de la capitale de l'archipel, IKN. Il a transmis l'invitation lors de sa visite à Canberra. C'est ce qu'a déclaré Retno Marsudi lors d'une conférence de presse virtuelle jeudi. Auparavant, lié à l'IKN, le chef de l'autorité de la capitale de l'État, OIKN, Bambang Susantono, a déclaré qu'un règlement gouvernemental concernant les incitations à l'investissement dans l'IKN serait publié dans les prochaines semaines. Bambang a déclaré plus tard que des incitations spéciales à l'IKN seraient mises en œuvre de manière approfondie dans tous les secteurs pour attirer les investissements dans la nouvelle capitale. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Solidarité internationale pour la Turquie et la Syrie ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chajoïtar, un tremblement de terre peu profond d'une magnitude de 7,8 et un épicentre dans le district de Pazarçık, province de Kahramanmaras, Turquie, a secoué le pays lundi 6 février tout ce matin. Ce tremblement de terre massif a détruit des milliers de bâtiments, y compris des résidences dans les régions de Turquie et de Syrie. Jeudi, le nombre de victimes décédées à cause des tremblements de terre dans les deux pays avait atteint plus de 12 000 personnes. Selon un rapport du quotidien britannique The Guardian, sur ce nombre, environ 3 000 personnes se trouvent en Syrie, tandis que près de 9 100 autres se trouvent en Turquie. Le ministère de l'Intérieur Turquie, Süleyman Soylu, a déclaré que son pays avait déclaré un niveau de catastrophe au niveau 4. Cela signifie que la Turquie peut demander de l'aide à la communauté internationale. Un certain nombre de pays, dont l'Indonésie, l'Inde, la Chine, le Japon, le Pakistan et la Russie, ont envoyé des équipes de secours et de l'aide alimentaire et médicale à la Turquie et à la Syrie. L'aide humanitaire de l'Indonésie est arrivée en Turquie et a été remise par l'ambassadeur indonésien en Turquie, Lalu Muhammad Iqbal, aux autorités turques. À savoir sous la forme d'un conteneur de nourriture qui a été remis directement par l'ambassadeur Iqbal au représentant du Croissant Rouge turc, Kizilay, à Gaziantep, le mercredi après-midi 8 février 2023, heure locale. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, a déclaré que Delhi avait envoyé le premier lot d'équipes avec des fournitures médicales, des équipes de chiens entraînés, des fourreuses et d'autres équipements nécessaires en Turquie. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé sa sympathie au nom des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde aux personnes touchées par le tremblement de terre. Le Pakistan a également dépêché du personnel de secours et de secours dans les zones touchées par les séismes en Turquie. Le bureau du Premier ministre pakistanais a déclaré dans un communiqué que Pakistan International Airlines enverrait un avion transportant 15 tonnes de fournitures d'urgence vers la Turquie et la Syrie. Le Japon a également dépêché des équipes de sauvetage et de secours en cas de catastrophe pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage. L'équipe de sauvetage de Chine, qui compte 82 membres, est arrivée en Turquie à l'aube mercredi 8 février, après avoir parcouru plus de 8000 km dans un avion affrété par Air China. Même si elle était en guerre, la Russie n'a pas non plus manqué d'aider la Turquie. Le ministère russe des situations d'urgence a déclaré mardi que plus de 100 sauveteurs russes étaient arrivés en Turquie. L'humanité et la solidarité sont bien sûr des raisons pour lesquelles la communauté internationale apporta son aide à la Turquie et à la Syrie. On espère que l'aide ne s'arrêtera pas là, car les deux pays ont encore besoin de beaucoup d'aide, notamment pour soigner les traumatismes post-séisme. Bon chargé tard, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Et on commence avec l'événement du 10 février 1943, le combat des troupes germano-espagnoles avec l'Union soviétique. Une bataille impliquant des troupes allemandes et espagnoles contre l'Union soviétique a éclaté à Krasnibor, près de la zone qui est maintenant Saint-Pétersbourg en Russie. L'une des batailles pendant la Seconde Guerre mondiale a duré 4 jours. Les troupes allemandes et espagnoles sont devenues victorieuses dans cette bataille appelée la bataille de Krasnibor. Le 10 février 1962, un avion espion américain est abattu en Union soviétique. L'avion espion appartenant aux États-Unis a été abattu lors qu'il traversait le ciel de l'Union soviétique. Le pilote de l'avion, Francis Gary Power, a survécu, bien qu'il ait finalement été détourné par l'Union soviétique. Après des négociations, l'Union soviétique a accepté de libérer Gary, après que les États-Unis aient également accepté de libérer l'espion de l'Union soviétique emprisonné. Le 10 février 1996, le supercalculateur IBM Deep Blue a battu le grand maître Garry Kasparov pour la première fois. Deep Blue est le premier ordinateur d'échecs à remporter une partie d'échecs contre un champion du monde qui s'appelle Garry Kasparov dans le temps standard d'un tournoi d'échecs. Le 10 février 1996, après 3 heures, le champion du monde d'échecs Garry Kasparov a perdu le premier match de 6 matchs d'échecs contre Deep Blue. La victoire était un jeu très exposé, mais Kasparov a remporté les 3 autres matchs et a obtenu un match nul lors des 2 matchs suivants, battant ainsi Deep Blue avec un résultat 4-2. Deep Blue est un ordinateur IBM capable d'évaluer 200 millions de mouvements par seconde. On estime que 6 millions de personnes dans le monde suivent le match en ligne. Le concours de février 1996 était important car il représentait la première fois que des humains et des ordinateurs s'affrontaient dans des règles. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put a show.
You could say I'm bragging, put a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind. Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind. I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind.
This is how it's gonna be. You'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't.
We don't mind it, no.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sergeant Lanten, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour la titre. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises propose la création d'une autorité de tutelle et de garant des coopératives. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, UKM, Teten Mas Duki, a proposé de créer une autorité chargée de superviser les activités coopératives et de garantir également l'épargne dans les coopératives grâce à la révision de la loi numéro 25 de 1992 sur les coopératives. Cité par Antara, mercredi 8 février, le ministre Teten Mas Duki au Palais d'État à Jakarta a déclaré que sa partie avait proposé trois choses dans la révision de la loi sur les coopératives. Premièrement, la création d'une autorité de supervision des coopératives comme fonction actuelle de l'autorité de services financiers, OJK, à savoir réglementer et de superviser le secteur des services financiers. Selon lui, il doit y avoir une autorité de contrôle comme OJK pour les coopératives, en particulier les grandes et moyennes coopératives d'épargne et de crédit qui gèrent beaucoup d'argent. Les États-Unis et le Japon ont déjà des superviseurs coopératifs. Teten Mas Duki a en outre expliqué que les superviseurs des coopératives sont importants, car il y a de plus en plus de fonds d'épargne dans les coopératives, mais la loi sur les coopératives est faible en termes de réglementation pour protéger les membres des coopératives. Il craint que des actes de détournement de fonds et d'autorité des administrateurs, comme ce qui s'est passé dans le secteur bancaire lors de la crise de 1998, puissent se produire dans les coopératives. Selon lui, le ministère des coopératives et des PME a transmis au président et au ministre coordinateur de l'économie sur les projets de révision de la loi sur les coopératives afin que les criminels financiers ultérieurs dans les banques ne se déplacent pas vers les coopératives car les règles d'épargne et de crédit dans les coopératives sont encore faibles. La deuxième proposition de révision de la loi sur les coopératives est la création d'une autorité coopérative d'assurance des dépôts sous le nom de l'Agence d'assurance des dépôts LPS qui garantit actuellement les dépôts dans les banques. Selon lui, la troisième proposition est le mécanisme APEC dans les coopératives, à savoir la coopération dans l'apport de liquidités entre les coopératives. Teten expliquait que le gouvernement pousserait le Parlement afin que la révision de la loi sur les coopératives puisse devenir le programme législatif national Prolegnas 2023. C'est Juritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Time, an
everything's right and you're mine. Get to know each other just in time. Damn, you are fine for me. In time, I'll be the one who cheer you up. Get to know each other when we fight. Girl, these days are running wild. On Monday we'll be just days of fool, cause I let you down, I messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday. And Sunday, no need for goodbye to me. You'd be the one that I could see. Hanging just together, you and me. Until we both ran out of time. You see, the odds are winning for you and me. Just let it flow and let it be. All these days are running wild. On Monday we'll cool, just days of fool, cause I'll let you down, I messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday. And Sunday, no need for goodbye. Just days a fool, cause I let you down, I messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Monday we'll cool, just days a fool, cause I let you down, I messed around. Wednesday's okay, we'll find a way. Thursday I'll stay when you're away. Friday, all the way to Saturday. And Sunday, no need for goodbye.
Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Le Magazine Culturel. Je vais vous présenter ce soir la danse de la lac de Purworejo, Java Central. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le Forum du tourisme de l'ASEAN ATF 2023 qui donne le coup d'envoi du leadership de l'Indonésie au sein de l'ASEAN pour 2023. C'est officiellement ouvert le vendredi soir 3 février 2023 au temple de Prambanan, région spéciale de Yogyakarta. La cérémonie d'ouverture de l'ATF 2023 a réuni les pays membres de l'ASEAN et des pays partenaires tels que l'ASEAN plus 3. L'Inde, la Russie et plusieurs autres organisations internationales étaient également présents. Le vice-président de la République d'Indonésie, Maruf Amin. À leur arrivée au temple de Prambanan, les délégués ont été accueillis par 1000 danseurs de la LAC. La danse de la lac originaire de Puruarijo au centre de Java est une forme d'acculturation entre les cultures javanaises et hollandaises. Les mouvements de cette danse adoptent les mouvements de danse javanaise et le pencak silat, accompagnés d'un certain nombre d'instruments de musique tels que le didur, le tambour et le vol. Sur Jami, la danse d'Olala comporte plusieurs types de danse, où chaque type de danse se distingue par les paroles des chansons chantées, jusqu'à 20 à 60 chansons. Chaque changement de chanson s'arrête pour donner une pause au début de la danse. Les danseurs seront assis, les jambes croisées, au milieu de la zone de représentation. Ensuite, les danseurs dansent ensemble dans diverses compositions, comme par paire, trios ou quatros. Au plus fort de la performance, les danseurs danseront indépendamment dans un état de transe ou dans la condition de quelqu'un dont le corps est possédé ou contrôlé par des choses surnaturelles. Les populations locales connaissent cette condition de transe sous le nom de Ndadi. Chers amis, la danse de la lac peut être divisée en danse simple, danse en couple et danse de groupe. Pour les danses de groupe, généralement dansées par 10 à 20 personnes. Les vêtements du danseur de la lac sont similaires à ceux des soldats hollandais. Le vêtement des danseurs de la lac est une chemise, un manche longue et un pantalon court accompagné d'un châle ou d'un sampour, qui est généralement jaune vif ou rouge. Autre vêtement complémentaire sous forme de chaussettes et de chapeau typique des soldats. Ce chapeau est noir, cerclé de tissu batik jaune doré. Les danseurs sont également équipés de lunettes. Pour les danseuses, elles portent des uniformes décorés d'or. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Restau terenak membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Berpisah itu mudah.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Village touristique de Ngilngof a remporté le prix du tourisme de l'ASEAN 2023 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, le village de Ngilngof, district de Mangyeu, région du sud-est de Maluku, dans la province de Maluku, a remporté la meilleure catégorie de séjour chez l'habitant lors du prix du tourisme de l'ASEAN 2023-2025. Le directeur du village touristique de Ngilngof, Rudolf Tethol, lorsqu'il a été contacté par Antara, a expliqué que le prix avait été remis directement par le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, à Yogyakarta dimanche. Il a déclaré que le village de Ngilngof a participé à la meilleure sélection de séjour chez l'habitant dans la zone touristique de la plage de Ngurblot et que les résultats ont été inclus dans les 11 villages touristiques qui ont reçu des prix. Après avoir subi une évaluation rigoureuse par une équipe de conservateurs de l'ATF 2023 qui ont été directement sélectionnés par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative et auxquels ont participé plusieurs autres candidats, le village de Ngilngof a remporté le titre de l'un des meilleurs séjours chez l'habitant. Rudolf a expliqué qu'à travers ce prix, il a réussi à prouver que la qualité et les services fournis répondent toujours aux normes de satisfaction des touristes visitant le village touristique de Ngilngof. Le quatrième prix ASEAN Homestay 2023-2025 a été remporté par Ngilngof Tourism Village, Dieng Kulon Tourism Village, Nusa Malanga et Andisan Tourism Village. Rudolf a expliqué que dans la zone touristique de la plage de Ngurblot, il y a 45 cottages composés de 35 chambres avec des installations sans climatisation et de 10 chambres avec climatisation. Pendant ce temps, dans la zone du village touristique, il y a 20 chambres qui peuvent être louées par les touristes de passage. Les résidents du village de Ngilngof développent indépendamment leur village pour devenir un village touristique et le promouvoir afin qu'il soit connu des touristes nationaux et étrangers. Un certain nombre de prix reçus incluent le Top 10 Hidden Paradise Tourism Villages 2021 du ministère du Tourisme et de l'Économie créative en février 2021. Le premier gagnant a Dwi Advanced Tourism Village 2021, le Muri World Record Award en tant que plage avec le sable blanc le plus doux au monde en 2023 et nomination pour le Asian Tourism Forum Award 2023. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Rasa di dada, oh inikah kita cinta selalu begini. Setiap kali ku melihatmu, ku senyum-senyum malu sendiri. Kau membuatku jadi gila
Of Indonesia.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika
sing
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Riau intitulée « Kampar Maimbau ». Sur ce tard, la chanson « Kampar Maimbau » raconte la beauté naturelle de la région de Kampar, Riau, qui manque toujours même si les gens sont partis à l'étranger. Les paroles contiennent la culture qui est encore bien préservée. Bon, chers auditeurs, voici Abi de la Rosa, Giring Riau Rhythm et Suang Project vont chanter une chanson de Riau intitulée Kampar Maimbau. Bonne écoute.
Gatoi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.